La technique comme mémoire.
Bernard Stiegler, après avoir parlé la dernière fois de votre rapport aux techniques, du problème plus général du rapport des philosophes et peut-être de la philosophie à la technique, on va maintenant aborder la question, peut-être la voie d'entrée peut-être la plus intéressante dans votre travail, qui est la question de la trace, de l'inscription, de la mémoire matérialisée. Vous évoquiez la fois précédente le dialogue platonicien du Ménon, où le jeune esclave qui a appelé à la réminiscence, à se ressouvenir de ce qu'il a oublié, le jeune esclave est invité à retrouver la solution d'un problème de mathématiques, de géométrie, en dessinant des figures sur le sable, c'est-à-dire en inscrivant quelque chose, en retrouvant dans la trace la vérité qu'il avait oubliée. Je pense que c'est peut-être cette question de la trace, de la mémoire comme trace, qui est un des concepts forts de votre travail sur la technique.
Oui, tout à fait. C'est exactement comme ça, d'ailleurs, que c'est en méditant ce deuxième grand moment du Ménon, où Socrate va chercher à démontrer à Ménon que chaque fois que je sais quelque chose, en fait, je m'en ressouviens et je le trouve en moi-même. C'est effectivement en analysant ce moment que j'ai commencé à formuler mon hypothèse de travail, à savoir, celle qui fait l'unité de tout le fil de mon propre travail, à savoir que la mémoire est toujours hypomnèse, est toujours technique. La mémoire humaine, veux-je dire. Hein. Et en l'occurrence, c'est effectivement ce qui saute aux yeux quand on lit ce dialogue de Ménon attentivement. C'est-à-dire que l'esclave de Ménon, pour pouvoir reconstituer, pour pouvoir trouver le raisonnement mathématique ou géométrique, est obligé de tracer une figure, donc d'extérioriser le problème pour pouvoir l'objectiver. De fait, je pense que la spécificité de notre mémoire d'être philosophant que nous sommes en tant que nous sommes des hommes, moi je pense que tout homme est un être potentiellement philosophant, pas forcément actuellement philosophant, mais potentiellement philosophant, c'est-à-dire potentiellement se posant des véritables questions. Nous le sommes dans la mesure où nous sommes dotés d'une mémoire artificielle, artefactuelle, qui permet la transmission des questions de génération en génération, et qui permet la matérialisation du temps, son espacement, sa spatialisation, et donc sa retransmission ou sa reconstitution. Alors, cette hypothèse, je l'ai en fait élaborée toujours en lisant Platon, car de fait, au départ, je suis plutôt un philosophe du platonisme. J'ai fait un travail sur Platon assez approfondi il y a fort longtemps. Vous disiez la fois précédente que je vais publier un livre qui est écrit depuis 20 ans. Vous avez révélé quelque chose que je n'avais d'ailleurs jamais dit, mais c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai écrit à l'époque où je travaillais sur Platon et que je n'ai encore pas publié parce que je considérais qu'il fallait 4 volumes d'introduction pour pouvoir le rendre accessible. Cela étant, cette question sur laquelle je travaille depuis 20 ans, c'est à l'intérieur du platonisme et donc de la naissance de la philosophie, le problème de la mémoire. Au départ, je travaille sur la mémoire. C'est depuis la question de la mémoire que j'ai été amené à poser la question de la technique, en particulier le jour où, relisant le dialogue Protagoras, je me suis mis à méditer un mythe qui est raconté par Protagoras. Donc c'était un dialogue de Platon, où Platon met en scène Socrate et Protagoras. La question du dialogue étant de savoir qui peut avoir part à la décision politique, qu'est-ce que c'est que le savoir politique. Et pour essayer de prouver que n'importe qui peut accéder au savoir politique, c'est-à-dire pour défendre la démocratie, pour être clair, Protagoras raconte l'histoire de Prométhée dans une nouvelle version, qui est inspirée d'ailleurs à la fois d'Hésiode et d'Eschyle. Cette narration dit qu'un jour, donc selon Protagoras, mais je crois que c'est une topique qui circule à l'époque, je ne pense pas que ce soit une pure invention de Protagoras. Un jour, Zeus, le père des dieux, le père de l'Olympe, a décidé que le moment était venu, comme dit le texte de Platon, de faire venir au jour les créatures mortelles, enfin pas les créatures, les êtres mortels, les non-immortels, ceux qui ne sont pas des immortels. Il n'y avait jusque-là que des immortels, c'est-à-dire les dieux, et tout à coup, Zeus, pour une raison inexpliquée, mais ça c'est la mythologie, les mythes n'expliquent jamais les choses, Zeus dit qu'il est temps, le jour est venu, de faire venir au jour les créatures mortelles, les êtres mortels, les non-immortels. Et donc il demande aux titans que sont Prométhée et son frère jumeau Épiméthée de réaliser cette tâche. Alors les titans, il faut le savoir que ce sont des êtres, des dieux, des fils de Cronos comme Zeus, qui sont très en conflit avec Zeus, et que Zeus a pratiquement réduit en servitude, pour pas dire en esclavage, c'est-à-dire qu'ils sont dominés par Zeus. Il demande à ces titans de prendre de la terre glaise et de donner forme à cette terre glaise grâce à des dynamis, à des formes, le terme grec c'est dynamis en fait, des puissances, que Zeus donne à Prométhée et Épiméthée en disant voilà des puissances, des formes, avec lesquelles vous allez pouvoir mettre en forme, faire apparaître les non-immortels. Donc Prométhée s'apprête à faire ce que lui a dit Zeus, et Épiméthée, son jeune frère, enfin son jeune frère, c'est son jumeau, donc il a le même âge que lui, mais il apparaît comme un jeune parce que Épiméthée, comme son nom l'indique, Épiméthès, c'est quelqu'un de très distrait, de presque idiot, et c'est pratiquement la figure contraire de son frère Prométhée, qui, comme le dit son nom Prométhès, est au contraire très prévoyant, au lieu d'être distrait et imprévoyant, et très intelligent. Il est une espèce d'incarnation de l'intelligence. Mais en fait, ils forment à eux deux un couple de jumeaux, donc, qui constitue, j'essaierai de dire pourquoi tout à l'heure, la question de la temporalité, à mon avis. Donc, Prométhée s'apprête à faire venir au jour les créatures, enfin les êtres mortels. Et Épiméthée lui dit, laisse-moi faire, je veux m'en occuper. Alors, Prométhée se dit, oh là là, il va se passer un malheur, mais il cède à son frère. Et il lui laisse faire, comme dit Platon, comme dit le dialogue, la distribution. Il lui laisse faire la distribution de quoi? Des qualités, en fait, que sont les dynamis, les formes, ou les puissances qu'a donné Zeus aux deux titans pour créer, pour engendrer les mortels, ce sont en fait des qualités. Et donc on voit, le dialogue raconte que Épiméthée distribue aux uns la vélocité, le zèbre par exemple qui court très vite, aux autres la puissance et la force, le lion par exemple qui mange le zèbre, un troisième la carapace de la tortue, un quatrième la capacité de prédation, etc. etc. Et finalement, qu'est-ce que décrit le mythe, là, en quelques phrases? La constitution d'un équilibre écologique. C'est-à-dire une bonne distribution des qualités pour que ce qu'on appellera beaucoup plus tard la lutte pour la vie puisse se faire dans des conditions acceptables pour tout le monde, c'est-à-dire sans qu'il y ait une destruction d'une espèce par une autre. Mais d'un seul coup, on arrive au terme de la distribution et Épiméthée s'exclame « J'ai fait une bêtise !» Épiméthée fait toujours des bêtises. En fait, c'est Gribouille, hein. C'est une figure de Gribouille, Épiméthée. Gribouille, c'est ce que Lacan, c'est la figure chez Lacan de l'après-coup, du lapsus, etc. Bon, ben là, c'est Épiméthée, hein. Épiméthée dit, j'ai oublié, c'est le verbe très important, j'ai oublié de garder une qualité, alors qu'il me reste à faire venir au jour un dernier étang, un dernier mortel, qui est le mortel par excellence, en fait, à savoir l'homme. Épiméthée a oublié de garder une qualité pour l'homme. C'est ce qui va obliger son frère Prométhée à commettre le fameux vol du feu. Puisque Prométhée est extrêmement embarrassé, il fallait faire venir au jour les créatures mortelles. On a oublié de garder une qualité pour l'homme. Il n'y a plus de qualité. Donc, on va aller voler une qualité chez qui ? Chez Héphaïstos, qui est le dieu créateur des techniques. Le dieu forgeron, le dieu artisan. Et c'est comme ça qu'apparaît l'homme comme un être technique, mais c'est ce que cela veut dire sans qualité. Un être qui n'a pas de qualité, qui n'est donc pas prédestiné à être ce qu'il est, à la différence de toutes les autres espèces. La vache, le zèbre, le lion, la tortue, etc., etc., qui sont prédestinés, et en quelque sorte, ça signifie enfermés dans leur niche écologique, si on parle dans un langage moderne. Eh bien, l'homme est un être qui n'a pas de limite. Il n'a pas de limite parce que c'est un voleur, d'une certaine manière. Ou plus exactement, c'est un être artificieux. C'est un être de la tromperie, de la mimésis, de la technique. C'est un être sans qualité qui est doté de qualités artificielles. Et qui sont ces qualités artificielles produites par l'imitation du dieu forgeron artisan qu'est Héphaïstos. Ce qui est très important, c'est la suite du mythe. Dans la suite, il apparaît que les hommes, qui sont donc constitués parce qu'ils ont acquis le savoir technique, vont entrer en conflit les uns avec les autres. Pour une raison facile à comprendre, qui est que, étant donné qu'ils n'ont pas de prédestination, leur destin n'est pas inscrit d'avance, et ils ne vont pas arriver à s'entendre entre eux sur qu'est-ce qu'il faut adopter comme type de prothèse, qu'est-ce qu'il faut adopter comme mode de vie, etc., etc. Donc ils vont commencer à se faire la guerre, à entrer en guerre avec eux-mêmes, ce qui chez les Grecs s'appelle la stasis. C'est très important, parce qu'au moment où Protagoras raconte ça, Athènes est en guerre avec elle-même. Les Athéniens eux-mêmes se font la guerre entre eux, et en tout cas les Grecs se font la guerre entre eux. La Grèce contre les Spartiates et les Athéniens est bien connue, mais d'une façon générale, la Grèce est au bord de la guerre civile permanente. Donc, il faut bien interpréter ce mythe par rapport au contexte politique de l'époque. Donc, Protagoras dit, Épiméthée ayant commis cette faute, ou l'oubli, redoublé par une deuxième faute qui oblige Prométhée à aller voler, il y a eu un oubli, donc il y aura un vol, à aller voler la technique à Héphaïstos, contre son gré. La punition, en quelque sorte, factuelle, mécanique, automatique, c'est que les hommes vont se faire la guerre entre eux. Alors à ce moment-là, Zeus dit, il y a un problème. Il y a des êtres que nous avons engendrés, qui s'appellent les hommes, qui se font la guerre entre eux. Il se tourne vers Hermès, il leur dit, écoute Hermès, tu vas aller les voir, et tu vas leur donner le savoir de Dike et d'Aido. Le savoir de la justice, et de la pudeur, de la honte, de l'honneur. Moi j'appelle ça, d'une certaine manière, de la mesure. Savoir de la mesure, de la finitude, si vous voulez. Aussi. Pour que ils soient capables de vivre ensemble et de ne plus se faire la guerre, et en particulier, tu leur donneras un certain nombre de... Tu inscriras en eux un certain nombre de savoirs qui sont les savoirs de la justice. Et à partir de là, la question va être l'interprétation de la loi. Car finalement, qu'est-ce que va faire Hermès ? Il va apporter à la cité l'écriture des lois. Hermès est le dieu de l'écriture. La loi, chez les Grecs, c'est une loi positive, c'est-à-dire une loi écrite, qui fait l'objet d'un débat. Dans les tribunaux, il y a des débats contradictoires. C'est comme ça qu'est née la passion du Logos, dont je parlais auparavant. Et finalement, va apparaître cette question de l'herméneia, c'est-à-dire de l'interprétation, qui est le cœur, en fait, de la question philosophique. Alors, j'insiste sur ce mythe pour deux raisons. La première, c'est que pour moi, il montre d'une manière extraordinairement précise et concise en même temps que la question du temps, parce que finalement la question de l'interprétation, c'est la question du temps. Interpréter le sens des lois, c'est créer de la jurisprudence. Créer de la jurisprudence, c'est entrer dans l'histoire. Entrer dans l'histoire, c'est entrer dans une modalité du temps politique. Il montre donc ce mythe que la question du temps procède d'une technicité ou d'une prothéticité originaire des êtres humains. Les êtres humains sont des êtres artificieux, techniques, prothétiques, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas leur être à l'intérieur d'eux-mêmes, mais dans des prothèses qu'ils fabriquent, qu'ils inventent. Mais ça veut dire qu'ils sont libres et en même temps voués à l'errance et à ce que j'ai appelé la désorientation originaire. Ils ont à inventer leur être là, leur existence. C'est ce qui m'a amené à dire que, contrairement à ce que prétend Heidegger, ce que Heidegger appelle l'avoir à être, c'est-à-dire la liberté, la responsabilité de soi, elle n'est pas du tout, cette responsabilité de soi, aliénée par la technique, mais au contraire constituée par la technique, rendue possible par la technicité. Et le deuxième point, alors c'est ça, ce premier point, c'est ce qui m'a fait articuler la technique avec le temps. C'est pour ça que tout le travail que je publie depuis maintenant presque 10 ans s'appelle La technique et le temps. Tous les volumes s'appellent La technique et le temps, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et le deuxième point, c'est que cette formulation mythologique trouve une espèce de pendant scientifique absolument extraordinaire, littéralement extraordinaire, dans l'ouvrage qui a été publié par André Leroy-Gourhan en 1964 et 1966, qui s'appelle Le geste et la parole, qui est un ouvrage qui est issu de travaux de préhistoire et de paléontologie humaine qu'a développé André Leroy-Gourhan, après avoir longtemps pratiqué l'ethnographie, en l'occurrence l'ethnographie des techniques, essentiellement dans le Pacifique Sud, mais pas seulement dans le Pacifique, en Orient. Leroy-Gourhan en est venu à s'intéresser, pour résoudre des problèmes d'ethnologie et d'ethnographie des techniques, à s'intéresser aux fossiles humains, et est devenu en fait un très grand préhistorien. Il est maintenant essentiellement connu comme un préhistorien. Et il a particulièrement travaillé sur les conséquences d'une découverte qui avait été faite en 1959 par un Sud-Africain d'origine anglaise qui s'appelait Leakey, qui était la découverte de ce qu'on appelait à l'époque le zinjanthrope. Le zinjanthrope est un australopithèque daté à l'époque par Leakey et Leroy-Gourhan d'il y a 4 millions d'années. Je crois qu'en fait il est un petit peu moins ancien aujourd'hui, la datation a été révisée. Mais c'est un être que l'on trouve en Afrique, qui est un être qui pèse environ 30 kilos, qui est un véritable bipède, c'est attesté parce qu'il a un trou occipital qui est exactement la perpendiculaire du sommet de son crâne, donc il marche debout. Il n'est pas comme un grand singe qui peut marcher debout mais qui court à quatre pattes, lui marche debout et il court debout. Et donc il a libéré ses membres antérieurs de la motricité, il n'a plus besoin de s'en servir pour marcher et pour courir, et donc il les a libérés pour la fabrication. Et là, je ne vais pas développer ce point longuement, mais je voudrais dire simplement deux choses. Leroy-Gourhan va montrer que ce qui fait l'humanité de l'homme, si je puis dire, quand je dis l'humanité de l'homme, c'est pas au sens des droits de l'homme ou de l'humanisme, c'est au sens de la possibilité de dater ce que c'est que l'homme en tant que rupture dans l'histoire de la vie, en tant qu'apparition d'un nouveau type d'être vivant.
Le processus d'hominisation.
Voilà, le processus d'hominisation, exactement. Ce qui fait ce processus d'hominisation, c'est un processus d'extériorisation technique du vivant. C'est-à-dire quelque chose qui relève du vivant, qui tout à coup passe hors du vivant, à savoir, et c'est pas rien, c'est les conditions de prédation et de défense, c'est-à-dire de lutte pour la vie, tout simplement. L'homme est un être qui conduit sa lutte pour la vie par des organes non biologiques, c'est-à-dire par des organes artificiels, en l'occurrence par des techniques. Ça, c'est le premier point que développe Leroy-Gourhan de manière absolument magistrale, dans l'homme, dans le geste et la parole. Et le deuxième point, qui est pour moi, en fait, le point décisif, c'est que Leroy-Gourhan montre que la technique est un vecteur de mémoire. Comment est-ce que ça peut se formuler? Eh bien, c'est assez facile à comprendre. Si vous regardez ce qui se passe entre l'Australopithèque et le Néandertalien, 3 millions d'années s'écoulent entre les deux. Si vous regardez la différence qui se produit entre les premiers objets techniques et les objets néandertaliens, les premiers objets techniques, ils sont d'une très grande rusticité, si je puis dire. Encore que si vous essayez d'en fabriquer, c'est très compliqué. Les galets éclatés, on les appelle, ce sont donc des armes que l'on produit en frappant à la perpendiculaire un galet avec un autre galet. Et c'est comme ça qu'on fait sortir un éclat. Moi, j'ai essayé d'en faire. Je peux vous dire que vous éclatez les ongles bien avant d'avoir sorti un éclat de silex. Il faut une très grande technicité pour faire ça. Donc c'est déjà en fait assez complexe. Ce sont déjà des gestes assez complexes. Néanmoins, ces gestes restent très élémentaires. À l'époque du Néandertalien, on a affaire à des centaines et des centaines de petits objets en silex taillés qui sont de la véritable dentelle de silex, c'est de l'orfèvrerie. Et là, c'est une technicité extraordinairement raffinée. Or, qu'est-ce qui se passe entre le Néandertalien, entre le l'Australopithèque et le Néandertalien, il y a une différenciation biologique qui se produit au niveau de l'éventail cortical. C'est ce qu'on appelle l'ouverture de l'éventail cortical. Mais à partir du Néandertalien, le système cortical n'évolue pratiquement plus. C'est-à-dire qu'en gros, l'équipement neuronal du Néandertalien, c'est le nôtre. Or, depuis le Néandertal jusqu'à nous, la technique a énormément évolué. Ça veut dire que l'évolution technique ne dépend absolument plus de l'évolution biologique. Il n'y a pas, le concept technique n'est pas dans une organisation biologique du cerveau. À la différence, c'est ce qu'on peut présupposer en tout cas, du concept de la toile de l'araignée ou du concept du barrage du castor, qui est en fait très lié à des déterminismes biologiques. Alors, ça signifie pour moi cette conséquence majeure, qui est que l'hominisation, c'est un processus d'extériorisation, pour reprendre le terme de Leroy Gourhan, mais ce processus d'extériorisation, c'est un processus de constitution de ce que j'appelle une troisième couche de mémoire. Pourquoi troisième couche de mémoire? Eh bien parce que, depuis le néo-darwinisme de la biologie moléculaire, on pose que les êtres vivants sexués sont constitués par deux mémoires. La mémoire de l'espèce, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui le génome, ce qu'on appelait à l'époque de Weismann le germaine, et la mémoire de l'individu, ou si vous voulez, ce qu'on appelle la mémoire nerveuse, la mémoire qui est conservée dans le cerveau individuel. Ça existe dès l'annélide, les mollusques les plus élémentaires, jusqu'évidemment au chimpanzé, en passant par le chien, raison pour laquelle, par exemple, on peut dresser un chien, on peut dresser un faucon, on peut dresser toutes sortes d'animaux, ou même une vache. C'est parce que il y a une marge d'indétermination dans la mémoire individuelle que l'on peut, qui a une certaine plasticité et à laquelle on peut apprendre des choses. Mais chez l'homme, il y a une troisième mémoire dont les animaux ne disposent pas. Cette troisième mémoire, c'est la technique en tant que telle. Un silex taillé, c'est une forme de matière inorganique qui est néanmoins organisée par la taille. Donc il y a une organisation qui se transmet via l'inorganique. Donc il y a la possibilité de transmettre des savoirs d'organisation par une voie qui n'est plus biologique, qui est la troisième voie de la technique. Voilà pourquoi la technique est pour moi indissociable de la mémoire, ou plus exactement, c'est l'inverse, voilà pourquoi la mémoire est indissociable de la technique. Voilà donc pourquoi l'esclave de Ménon est obligé d'utiliser l'extériorisation du sable pour tracer, dessiner, graphéine, comme dit le grec, graver, en quelque sorte, une figure qu'il doit extérioriser en organisant le sable, en organisant l'inorganicité du sable pour pouvoir projeter un concept.